bonsoir. Entrons ensemble dans un tendu débat sur les rapports entre sport et politique. À l'ordre du jour ce soir, le sport est-il un terrain de militantisme politique ? La semaine dernière, aux États-Unis, l'affaire Jacob Blake a déclenché un boycott historique des joueurs de la ligue de basket NBA, boycott suivi par d'autres ligues sportives qui ont cessé également, temporairement, la compétition. Ce qui pourrait apparaître comme un événement isolé s'est inscrit en fait dans une histoire bien plus longue des rapports entre conquête des droits d'un côté et popularité sportive de l'autre, en particulier par l'expression politique sur les terrains ou sur les podiums, par l'intermédiaire de gestes symboliques, d'inscriptions sur les maillots ou encore de slogans dans les tribunes. Cependant, ce qui semble vrai aux États-Unis, il est peut-être beaucoup moins de ce côté-ci de l'Atlantique. Le pays qui a vu naître Pierre de Coubertin et l'idée de l'olympisme moderne est traditionnellement beaucoup plus réticent que d'autres à la prise de parole publique des sportifs quand il s'agit d'évoquer par exemple les problèmes politiques ou les problèmes sociaux. Comment se justifie cette différence ? Ce sera une des questions que nous poserons à nos trois invités. Avec nous, depuis la Suisse, Jean-Loup Chapelet, il est ancien cadre du CIO entre 1982 et 1987. Il est également professeur émérite à l'université de Lausanne. Avec nous, Aya Sissoko, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes triple champion du monde de boxe, anglaise et française, cette boxe, écrivaine et comédienne. On en parlera avec vous. Et avec nous également, Nicolas Martin-Breteau, vous êtes historien, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à Lille 3, membre du CECIL. Vous êtes auteur d'un livre qui vient tout juste de paraître cette année, Corps politique. Le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle. C'est paru aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales.
Ces quatre derniers mois ont mis en évidence l'injustice raciale que les citoyens afro-américains de ce pays doivent affronter. Ils ont fait entendre leur voix. Mais ces derniers jours, dans notre état du Wisconsin, nous avons vu aussi les images terribles de Jacob Blake, sur lequel un officier de police a tiré sept fois dans le dos. Nous avons été aussi témoins de manifestants pris pour cible par des hommes armés. Malgré nos suppliques, aucune action n'a été entreprise. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous concentrer sur le basketball.
Voici donc Sterling Brown, il est arrière des Bucks de Milwaukee, l'équipe à l'origine du boycott historique des joueurs de la NBA dont je parlais à l'instant. C'était la semaine dernière, des propos qui ont été traduits par le correspondant de Radio France aux États-Unis, Grégory Phillips, le 26 août. Avec vous, Nicolas Martin-Breteau, il faut peut-être commencer en évoquant justement cette manifestation qui n'est le dernier maillon d'une longue chaîne que vous faites remonter à la fin du 19e siècle, du combat pour l'égalité des droits par les Noirs américains, par l'intermédiaire du sport, des terrains de sport.
Oui, c'est exact. Les Noirs américains ont traditionnellement utilisé le sport comme un terrain de lutte politique pour faire montre de leur dignité, pour obtenir la reconnaissance humaine, c'est-à-dire la reconnaissance de leur humanité, pour obtenir des droits égaux avec leurs concitoyens et leurs concitoyennes blanches, et ceci depuis la fin du 19e siècle. Donc ce qui se passe aujourd'hui est en réalité la continuation d'une longue lutte qui a eu les terrains de sport pour enjeu, afin de transformer les représentations dominante sur le corps noir.
Alors, il est tout à fait évident qu'on ne suit pas jour après jour et tous les débats qui sont très importants aux États-Unis, mais c'est vrai que depuis la mort de George Floyd, il y avait eu d'autres exemples, justement, de début de boycott, de volonté de boycotter, justement, des manifestations sportives. Mais là, effectivement, après celle de Jacob Blake, eh bien, ça est monté d'un cran. Et c'est quelque chose de très important aux États-Unis que d'arrêter une compétition comme celle-ci.
Oui, absolument. L'arrêt des compétitions de la NBA a eu lieu pendant la période des playoffs, qui sont donc ces matchs qui se jouent après la saison régulière. Donc c'est un petit peu le sommet de la saison de basket, et cela après le confinement, donc étant attendu par des millions de téléspectateurs et de fans. Donc la décision d'arrêter un certain nombre de matchs par une grève plutôt que d'un boycott, d'ailleurs, puisque ces joueurs et ces joueuses aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de femmes noires, basketteuses noires, qui ont également participé à ce
tennis woman
absolument, sont en fait des salariés, des travailleurs et des travailleuses, plutôt que des consommateurs. Donc je pense qu'il faudrait plutôt parler d'une grève tout à fait historique dans l'histoire des États-Unis, étant donné l'ampleur de ce mouvement.
Aya Sissoko, est-ce que vous pensez, vous avez été surprise d'abord par ce mouvement, et vous pensez qu'il pourrait intervenir dans l'espace européen et dans l'espace français en particulier, vous qui êtes une championne justement de sport ?
Alors, surprise non, parce qu'il y a eu déjà des précédents. Enfin, il faut aussi se rappeler l'affaire Copernic, où celui-ci, justement, suite à des meurtres commis sur des hommes et des femmes noirs, parce que les États-Unis aussi ont cette spécificité, c'est-à-dire que hommes et femmes sont concernés par les meurtres policiers, avaient posé un genou à terre pour dénoncer ces mises à mort. Est-ce que cela peut se passer en France? On va dire que, en fait, les États-Unis ont une longue histoire justement de militantisme, comme vous venez de le dire il y a un instant. C'est beaucoup plus timide en France aussi parce que les sportifs sont empêchés, découragés de s'exprimer sur ces sujets-là.
Empêchés par qui et découragés par qui?
Empêchés, déjà parce que. Pour pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, il faut effectivement qu'il y ait des exemples, il faut qu'il y ait des précédents sur lesquels on puisse s'appuyer, c'est-à-dire des figures qu'on puisse mettre en exergue, qui ont déjà revendiqué. Ça, finalement, c'est très difficile de les trouver en France. Et puis aussi, la situation de précarité des sportifs et des sportives en France.
Vous dire qu'ils ne sont pas salariés comme le sont les sportifs américains de la NBA, par
exemple. Alors c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est, il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a une étude, il y a un documentaire qui a été diffusé juste avant les Jeux de Rio, où la moitié, des 450 sportifs français, c'est-à-dire l'élite du sport français, vit sous le seuil de pauvreté. Mmh. C'est-à-dire que la moitié des 450 sportifs qui ont participé aux JO de Rio vivait avec moins de 500 euros par mois.
Alors que,
et donc ça empêche.
On a en tête généralement les salaires des grands sportifs de football, par exemple, qui évidemment sont bien au-delà de cette somme-là. C'est
ce que... Exactement. Et donc justement, cette précarité empêche de prendre des risques pour les sportifs. C'est-à-dire les carrières sont courtes. Les protections, justement, sont beaucoup moindres qu'un salarié classique. Et donc on a peur. Donc les sportifs français sont muselés.
Jean-Loup Chapelet, vous êtes avec nous depuis Lausanne où vous enseignez, vous avez été cadre du CIO. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression qu'il y a, parce que quand on est au CIO, j'imagine qu'on a une vision planétaire, pourrait-on dire, de ces questions sportives. Est-ce que vous imaginez qu'il y a une différence entre la façon dont se déroule le sport en France vis-à-vis de ces questions politiques et sociales et la façon dont ça se déroule, par exemple, aux États-Unis?
Ah ben oui, fondamentale la différence, puisqu'aux États-Unis, on est dans des relations de travail, les athlètes de ces grandes ligues professionnelles sont des professionnels, sont des salariés, tandis qu'en France, je dirais, ou en Europe en général, ou dans le reste du monde, à part les très grandes vedettes comme les footballeurs et les tennismans peut-être, les athlètes sont des sortes d'intermittents du spectacle, du spectacle sportif. Donc, on a effectivement une précarité des athlètes, de la plupart des athlètes, même de haut niveau, dans la plupart des sports, sauf quelques sports très professionnalisés comme le football et le tennis.
Mais même dans le football et même dans le tennis, on n'imagine peut-être pas entendre une tenniswoman française dire comme Naomi Osaka, donc numéro 10 du tennis mondial, justement, 22 ans, à propos de ce qui s'est passé donc aux États-Unis. En tant que femme noire, j'ai l'impression qu'il y a des questions plus importantes qui nécessitent une attention immédiate plutôt que de me regarder jouer au tennis, par exemple. Est-ce que, justement, cette question des priorités, pourrait-on dire, entre priorités de carrière sportive d'un côté et priorité de carrière politique ou de vision de citoyenne ou de citoyen n'est pas inversée justement quand on est sur le terrain français ou dans le terrain européen.
Bon, comme le disait Aya tout à l'heure, il y a toujours cette peur d'être prétérité, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire de risquer sa carrière ou risquer une réputation. C'est clair que, par exemple, au moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, il y avait eu des manifestations importantes avec le relais de la flamme olympique au sujet du sort du Tibet et des Tibétains.
À propos des JO de Pékin.
Voilà, pour les Jeux de Pékin, et David Douillet, un judoka français, avait proposé que tous les athlètes français portent un badge qui aurait dit simplement pour un monde meilleur. C'était pas très très pointu, mais finalement ça avait été accepté par le Comité national olympique et sportif français, puis ensuite refusé sous prétexte que justement il fallait que tous les athlètes portent ce badge qui finalement reprenait des mots de la charte olympique. Donc on voit bien que il y a une réticence de la part des athlètes de prendre un risque, un peu comme d'ailleurs les vedettes de cinéma aussi, qui prennent très rarement des positions politiques pour préserver leur carrière.
Oui, sur ce point, il y a Sissoko.
Oui, d'ailleurs, en fait, c'est très vrai. De toute façon, les sportifs français sont biberonnés justement ni religion ni politique. Et d'ailleurs, ce serait aussi intéressant de revenir sur l'article 50 de la charte olympique. Ce serait aussi intéressant de revenir sur l'article 50 de la charte olympique, qui interdit toute forme de manifestation ou de propagande politique, religieuse ou raciale pendant les Jeux. C'est-à-dire que
Alors, on peut peut-être l'expliquer, cet article 50, par ce qui s'est passé à Munich en 72, par ce qui s'était passé en 36 à Berlin ou dans d'autres endroits, ou à Mexico en 68, par exemple. Effectivement, par cette idée que, aussi, ça peut déborder simplement le cadre sportif, mais aussi le cadre politique, puisque il y avait tout de même eu au JO de Munich, effectivement, l'assassinat de ces athlètes israéliens.
Je suis parfaitement d'accord, mais il n'empêche que le sport n'est pas en dehors finalement des problématiques de la vraie vie du quotidien. Et d'ailleurs, les athlètes olympiques ont été rattrapés justement par cette réalité, avec des tags racistes qui sont retrouvés, enfin sur des photos qui étaient accrochées
à l'INSEP,
sur les grilles de l'INSEP. Donc, et d'ailleurs, la réponse justement, enfin des responsables, du comité olympique a été véritablement maladroite, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, justement, de répondre à ces questions d'antiracisme. Mm-hmm. C'est quelque chose qui s'apprend.
Nicolas Martin-Breteau, justement, comment les athlètes noirs américains ont-ils appris justement cela? Parce que, en fait, ça n'est pas un long chemin de croix, ni un chemin de rose, d'ailleurs, puisque ça démarre à la fin du 19e siècle. C'est ce que vous expliquez bien dans votre livre Corps politique, le sport dans les luttes des noirs américains pour l'égalité. Mais il y a des tensions, il y a des discussions. D'abord, dans un premier temps, on se dit, on va gagner peut-être un milieu d'une petite bourgeoisie qui permettra d'exister dans la société américaine par le sport. Et puis plus tard, dans les années 60 ou dans les années 70, eh bien évidemment, d'autres mouvements plus politiques, comme le mouvement de Black Panther, comme le mouvement inspiré par Malcolm X, va critiquer cette façon de s'embourgeoiser, cette bourgeoisie noire qui voudrait ressembler à la bourgeoisie blanche.
Je crois que vous résumez bien ce que j'essaye de montrer dans le livre. Je pense qu'il y a deux grandes périodes dans cette histoire aux États-Unis. La première période qui va de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1950, 60 et 70 cherche à montrer que le sport peut aider les Noirs américains à combattre les préjugés raciaux. L'idée étant que le racisme, c'est d'abord une histoire psychologique, c'est-à-dire un problème qui se tient dans la psychologie des Blancs. Il faut donc faire changer la façon dont les Blancs voient les Noirs. Et le sport, c'est un moyen de montrer la dignité des corps noirs, leur égalité avec les corps blancs.
Donc ça, c'est la première période.
Ça, c'est la première période.
C'est donc, en gros, la première moitié du XXe siècle, fin XIXe, première moitié du XXe siècle. On crée des gymnases, on crée des lieux dans des lycées, par exemple, pour pouvoir justement apprendre le sport, devenir sportif, créer des stades aussi qui permettent justement de se mesurer. Absolument. Et puis ensuite, dans un deuxième temps,
donc, ce premier temps, c'est l'idée selon laquelle la performance parlera d'elle-même. La performance sportive permettra de détruire les préjugés raciaux. Et puis la deuxième période, c'est le mouvement Black Power qui montre bien que, en réalité, le sport n'est pas étranger ou en dehors de la société, mais est traversé par les structures d'inégalité, notamment raciale, mais aussi de genre, etc. Et qui fait que le sport, en réalité, si il doit être un moyen de démocratisation de la société, doit lui-même être déracialisé. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme systémique ou institutionnel. Et ça date des années 60 et 70, moment pendant lesquels, y compris les athlètes noirs, essayent de montrer que le sport est traversé lui-même par des structures raciales et racistes.
Alors on vient de faire un long parcours d'un siècle, Jean-Louis Chapelet. Pendant ce temps-là, le sport s'institutionnalise, le sport se développe. Il y a évidemment, et on l'a cité tout à l'heure, la charte olympique. Il y a évidemment la pensée de Coubertin et de ceux qui lui ont succédé. Et évidemment, ça n'est pas exactement la même position que celle qui vient d'être défendue à propos de ce qui se passe aux États-Unis, Jean-Louis Chapelet.
Non, effectivement, la position que le sport n'a plus rien à voir avec la politique ne tient plus depuis longtemps, finalement. C'était la position des années 70 du CIO, de Avery Brundage, qui était président du CIO, mais ça a été abandonné progressivement, et aujourd'hui, je pense que le CIO a une position beaucoup plus progressiste. C'est vrai que cet article 50 fait date et devrait être changé. On ne peut pas interdire à des athlètes de s'exprimer. C'est même une liberté fondamentale, la liberté d'expression. Donc, il s'agit de changer cet article 50 pour sa partie concernant l'interdiction de démonstrations politiques, religieuses, raciales. Il y a une autre partie dans cet article 50, c'est les démonstrations ou les publicité ou les aspects commerciaux qui faudrait aussi discuter. Mais pour ce qui est de la liberté d'expression en matière raciale, politique, religieuse aussi, je crois qu'il faut changer de fusil d'épaule. Il faut laisser les athlètes s'exprimer, mais peut-être pas n'importe où aussi, parce que la liberté d'expression, elle a ses limites, même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Par exemple, il est interdit en France par la loi ou ailleurs de nier l'Holocauste. Donc on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Je crois que c'est ça qui est important de bien préciser, c'est que cette liberté d'expression, elle est totale, à mon avis, elle devrait être totale pour les athlètes, sauf peut-être sur le terrain de jeu, au moment où ils font leur sport et au moment où ils sont sur le podium, parce que finalement, d'autres personnes sont concernées que ceux qui voudraient faire une démonstration, peut-être.
Alors, sur ce point, Yassi Soko, est-ce que lorsque vous étiez sur le ring, donc en tant que championne de boxe, vous avez eu la tentation, par exemple, d'utiliser ce moment où les caméras sont braquées, où les projecteurs sont sur vous pour pouvoir dire quelque chose, ou est-ce que vous en avez été freiné, vous disiez tout à l'heure, on est empêché de le faire par, je sais pas, votre encadrement, par la manière dont on vous avait enseigné ce qu'était d'être sportive de haut niveau?
Alors moi, j'ai toujours eu, enfin moi, en tout cas, j'ai toujours pris cette liberté de dire ce que j'avais à dire quand j'avais envie de le dire. C'est-à-dire la précarité de la carrière de sportif ou de sportive ne m'a jamais empêché de dire ce que j'avais à dire. Et c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, je vais vous raconter très rapidement cette anecdote. Il y a 20 ans.
Vous étiez en pleine carrière.
J'étais en pleine carrière, en équipe de France. La Fédération française de savates décide de changer les règles. C'est-à-dire que les combattants n'ont plus le droit de faire de l'assaut. Donc en boxe française, on a du combat et de l'assaut. À l'époque, on pouvait faire les deux et devenir champion du monde dans les deux disciplines. Du jour au lendemain, on nous dit, les combattants n'ont plus le droit de faire d'assaut. J'ai pris ma plume et j'ai écrit. J'ai écrit pour dire mon désaccord. Et la seule réponse qui a été émise, c'est, est-ce vous qui avez écrit cette lettre? Voilà. Donc, c'est-à-dire que, d'une part, et c'est aussi...
On mettait en cause votre capacité à réfléchir à votre propre sport. On mettait en cause quoi par cette lettre?
En fait, c'est aussi ce qui se passe. Enfin, à chaque fois, effectivement, que des individus osent prendre la parole, osent dénoncer, effectivement, les oppressions, les injustices qui sont les leurs. En fait, on ne s'attaque jamais au fond du problème. C'est-à-dire, soit on va s'attaquer à la forme, soit, justement, peut-être finalement c'est aussi une manière de nous renvoyer en fait à notre statut. C'est-à-dire que moi c'est ce que j'appelle les corps laborieux. C'est-à-dire en fait on attend de vous que
de
vous
faire votre travail
de sportif, c'est-à-dire
remporter des médailles
à partir du moment où effectivement où on décide de prendre la parole et de défendre finalement nos droits. En fait notre propos devient inaudible.
Ça veut dire aussi que vous n'avez pas de droit de regard sur les règles, vous parliez de cet exemple pour la savate, mais oui, sur les règles qui dirigent votre propre sport. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes gouverné d'une certaine façon.
Exactement, on est gouverné. Et d'ailleurs, il suffit juste de prendre justement l'exemple de Lilian Thuram ou même de Vikash Lorasso. Donc c'est à partir du moment où ils ont décidé de s'exprimer sur des sujets politiques, de société, on les a continuellement renvoyés à leur statut de sportif. C'est-à-dire, vous ne maîtrisez pas ces sujets, laissez celles et ceux qui savent.
Enfin, ils ont réussi maintenant à s'exprimer complètement, parce qu'ils sont sortis des carrières sportives.
Mais à quel prix? C'est-à-dire qu'encore maintenant, quand Lilian Thuram s'exprime sur certains sujets, quand il ose parler justement de prononcer le mot « blanc », en fait, il se reçoit une volée de bois vert. Et là, une fois de plus, on ne parle plus du fond, mais de la forme. C'est-à-dire que le discours antiraciste actuellement est inaudible en France.
Alors évidemment, ça n'est peut-être pas le cas aux États-Unis où par exemple des grands équipementiers comme Nike utilisent justement ces mouvements qui sont en cours aux États-Unis dans le milieu du sport pour pouvoir, disons, dire qu'ils sont différents des autres et que justement ils soutiennent ces mouvements. Un extrait d'une publicité Nike justement, ainsi qu'un extrait d'interview de LeBron James, la joueur star des Lakers, suivi d'une chroniqueuse de Fox News qui lui dit tout compte fait qu'il serait bien mieux qu'il dribble plutôt qu'il s'exprime.
I would much rather love to hear from our next president, Ms. Hillary Clinton.
When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport.
The number one job in America, the point of person, is someone who doesn't understand the people. And really don't give a f*** about the people.
And the world's sporting events are postponed or cancelled.
But whatever it is, we'll find a way.
France Culture.
And when things aren't fair, we'll come together for change.
Le temps du débat.
We have a responsibility
to make this world a better place.
And no matter how bad it gets, we will always come back stronger.
Emmanuel Laurentin.
Because nothing can stop what we can do together.
Shut up and dribble.
Shut up and dribble, dit donc cette présentatrice de la Fox à LeBron James, qui veut justement faire entrer la question de la politique sur les terrains de basket. Nous sommes donc dans le temps du débat, une émission consacrée au sport comme terrain de militantisme politique, avec nous depuis Lausanne, où il enseigne, professeur émérite à l'Université de Lausanne, Jean-Louis Chaplet, qui a été ancien cadre du CIO. Avec nous, Aya Sissoko, triple championne du monde de boxe anglaise et française, écrivaine et comédienne. Et avec nous également, Nicolas Martin-Breteau. Vous êtes auteur de « Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité ». Nicolas Martin-Breteau, comment leur est venue à ces sportifs noirs américains l'idée d'utiliser le terrain lui-même comme lieu d'expression politique ?
Eh bien, c'est assez simple. À la fin du 19e siècle, le sport moderne naît en Europe, notamment en Angleterre, puis sur les campus des grandes universités blanches américaines, et devient très rapidement l'un des éléments de la société les plus médiatisés. C'est-à-dire que les grands sportifs au 20e siècle sont parmi les personnes les plus connues dans la société, voire dans le monde aujourd'hui. Hein. Je pense à des gens comme Cristiano Ronaldo, sont des dieux vivants, des superstars. Et les Noirs américains utilisent donc cette plateforme politique pour essayer de démontrer que, ils sont des humains comme les autres, en particulier comme les Blancs, et que sur les terrains de sport, ils peuvent faire montre d'excellence. Le but, c'est de montrer l'excellence noire par la performance sportive. L'exemple le plus célèbre, c'est Jesse Owens à Berlin.
C'est ce que le sociologue Erving Goffman appelait la débouffonisation des Noirs dans tout ce domaine-là. C'est-à-dire les sortir de la caricature pour pouvoir les faire entrer dans le monde de réel.
Absolument. Renverser des siècles d'avilissement par des stéréotypes racistes et montrer que en fait les corps noirs sont capables de la même dignité, de la même humanité que tous les autres et que donc ils sont susceptibles de se voir garantir les mêmes droits.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un renversement de la part, y compris des Blancs, de regarder ces corps noirs comme justement des corps de sportifs différents, bien plus beaux, bien plus grands, bien mieux faits d'une certaine façon, en les divinisant pour les renvoyer justement à leur condition noire?
Absolument, le corps noir est naturalisé historiquement et les performances sportives de certains athlètes noirs américains ont fait retourner le stigmate. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un lieu commun de dire que les noirs sont bons en sport, en particulier courent vite et sautent haut, alors même qu'à la fin du 19e siècle, on l'oublie trop souvent, c'était exactement l'inverse qui était le cliché dominant en Occident. Les noirs ne sont pas faits pour le sport, qui est une activité sociale réservée aux races, entre guillemets, supérieures.
Jean-Louis Chaplet, vous disiez tout à l'heure que pour vous, on peut évidemment s'exprimer partout, que chacun et chacune a le droit d'exprimer son opinion, mais que tout de même, il y a des lieux qui seraient plus sacrés, entre guillemets, que d'autres, le podium, le ring, le terrain sur lequel on joue. Comment ça s'expliquerait justement cette sorte d'exceptionnalité, alors que dans les tribunes, par exemple, les supporters, parfois, n'hésitent pas eux-mêmes à donner leur opinion politique, et donc pourquoi les supporters auraient-ils le droit de le faire dans les tribunes alors que sur les terrains les sportifs n'auraient pas le droit de le faire?
Ben, c'est ce que je disais, c'est parce que tout simplement souvent ils sont avec d'autres sportifs qui peut-être n'ont pas les mêmes opinions et ils se trouvent donc mêlés à l'opinion qui est exprimée, qui peut être exprimé, je le dis bien encore, mais peut-être pas avec des personnes qui ne sont pas directement concernées.
Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir des conflits, que des conflits guerriers extérieurs ou politiques extérieurs au stade pourraient arriver sur le stade? C'est la crainte du CIO.
Bon, la crainte peut-être, mais surtout le fait que donc une démonstration, par exemple. Contre le racisme, ce que chacun peut bien sûr admettre, ne serait peut-être pas admis par une autre personne qui serait sur le podium. Mmh. C'est en fait des situations qui sont un peu privilégiées et que les athlètes devraient garder pour eux, comme sur le terrain, où sur le terrain ils s'affrontent non pas avec des mots, avec des idées, mais avec leur sport. Donc c'est à mon avis la seule limitation qui pourrait être apportée. Ils peuvent s'exprimer partout ailleurs, ils peuvent s'exprimer dans la ville où se déroule l'événement, ils peuvent s'exprimer dans le village olympique, si c'est les Jeux olympiques, ils peuvent s'exprimer dans les zones mixtes où ils rencontrent les médias. Il y a plein d'autres endroits où ils peuvent s'exprimer toute l'année. Mais pourquoi s'exprimer exactement sur le champ, sur le terrain de jeu, sur le ring, comme vous disiez, sur le tatami, pourquoi s'exprimer sur le podium?
Aya Sissoko, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Loup Chapelet.
Oui, mais là, c'est encore, en fait, justement, enfin, une volonté, enfin, de contrôler les corps, de contrôler le discours. Il y aurait des espaces autorisés, enfin, juste à côté, ça ne serait plus possible. Mais il n'empêche que, justement, l'histoire aussi, enfin, dans les luttes, a progressé parce que des individus, enfin, des sportifs et sportifs ont osé transgresser les règles existantes.
Ouais, c'est Mexico 68, quoi. C'est
par exemple, je veux dire, on peut remonter aussi à Jack Johnson, qui, à un moment donné, c'est le combat du siècle. C'était la première fois qu'un boxeur noir rencontre un boxeur blanc dans la catégorie reine, la catégorie des poids lourds.
Est-ce que vous pensez, Nicolas Martin Breteau, qu'on assiste à un transfert, c'est-à-dire que cette opposition que j'ai faite depuis le début de cette émission entre un espace européen qui serait encore pétri de valeurs qui interdit justement la prise de parole sur les terrains, dans les podiums, etc., et un espace états-unien qui lui le permettrait, n'est pas un peu caricatural? C'est-à-dire, par exemple, on a vu les footballeuses de Lyon pour la finale de la Ligue des Champions et celle de Wolfsburg, qui était leur adversaire, mettre le genou à terre, ce qui est un signe qui vient des États-Unis, qui s'est transféré sur l'espace européen pour cette occasion-là, et mettre le genou à terre en hommage justement à ces victimes noires aux États-Unis.
Oui, je crois qu'on assiste à un certain nombre de transferts, de modes d'action politique de part et d'autre de l'Atlantique. Mais je voudrais revenir sur l'idée selon laquelle le sport serait parmi les activités sociales, une activité à part dans la mesure où les concurrents, comme dans une vraie démocratie, seraient parfaitement à égalité. Et c'est l'idée selon laquelle, disons, le sport ou même le match sportif serait une sorte de microcosme du fonctionnement de la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours très, parfois pour beaucoup de personnes, révoltant de voir des expressions politiques à l'intérieur du domaine sportif, puisque parmi toutes les activités sociales, peut-être le sport est considéré, à tort ou à raison, je pense plutôt à tort, comme le reflet d'une démocratie qui fonctionnerait parfaitement dans la mesure où tout le monde est à égalité. Il y a une égalité des chances, dit-on, dans le sport parce que tout le monde respecte les mêmes règles.
C'est d'ailleurs ce que disent aussi beaucoup les publicités pour le sport qui sont faites par les équipementiers souvent. Ce qui est quand même très étonnant à Yacy-Socco, c'est de voir que des équipementiers qui ont été toujours très réticents et qui parfois ont enlevé leur contrat à certains sportifs qui prenaient trop la parole sur des questions politiques et sociales, sont maintenant du côté de ces mêmes sportifs que Nike, on l'a entendu, puisse faire un hymne à l'égalité entre handicapés, non handicapés, invalides, etc., entre noirs et blancs. Et tout cela, c'est tout à fait nouveau.
Alors j'ai envie de vous dire effectivement que ces équipementiers ont une véritable conscience politique, avec l'ambition effectivement, enfin, d'un monde parfaitement égalitaire. Après, il y a aussi l'autre hypothèse qui est celle de part de marché. Donc en fait, ces équipementiers sont opportunistes et savent effectivement que
On peut laisser Serena Williams prendre la parole, on peut laisser LeBron James prendre la parole, parce que tout compte fait, ça ne nuira pas au commerce de ces équipementiers, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, exactement. Après, enfin, ce qui est aussi important de souligner, c'est-à-dire qu'on a, en France, malheureusement, on a toujours tendance à se focaliser sur ce qui se passe outre-Atlantique. Mais les problématiques, justement, enfin, de violence policière existent aussi en France. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter, enfin, de faire l'autruche et faire comme si, effectivement, enfin, la France serait, enfin, ne serait absolument pas concernée par tous ces faits.
On est souvent revenu dans cette émission, effectivement.
Oui, mais il est aussi important, c'est-à-dire que en France, enfin, des militants de terrain, aussi des sportifs et sportives, essayent de s'exprimer sur ces sujets, parce que le sport est éminemment politique, malgré ce que l'on veut nous faire croire.
Sur ces questions d'équipementiers sur lesquelles j'ai lancé à l'instant même à Yacy-Socco, Nicolas Martin Breteau, et puis je donnerai la parole ensuite à Jean-Louis Chapelet, et à cette question commerciale, qu'est-ce qui fait que ça n'est plus aussi grave aujourd'hui de prendre la parole politiquement qu'en 1968, quand on était sur un podium à Mexico, et qu'un athlète noir peut dire sur le terrain même ses propres idées politiques sans que son équipementier rompe le contrat?
Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, le simple fait que quelqu'un comme Colin Kaepernick puisse mettre un genou à terre pendant l'hymne américain au début des matchs de football américain
et continuer à être équipé par Nike,
voilà, se fasse, excusez-moi, mais virer de son équipe, virer de la ligue et continue à toucher des revenus de sponsoring par Nike, montre bien le changement de contexte politique entre aujourd'hui et par exemple les années 80, avec Michael Jordan qui se refusait à prendre toute position politique précisément parce que...
Et qui, quand il en a pris une cette année, a été surprenante parce que d'un seul coup on s'est dit, tiens, Michael Jordan sait parler et parle politique.
Le contexte politique a changé ces 30 dernières années et les équipementiers, notamment Nike, en profitent.
Et puis Reebok, un autre équipementier, pour ne pas faire la publicité qu'un seul, dit sans la communauté noire, Reebok n'existerait pas. C'est comme ça qu'ils se défendent justement de prendre position sur ces questions-là, sur ces questions, puisque vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Louis Chapelet, la crainte de prise de position à la fois politique sur les podiums ou sur les terrains, mais aussi des prises de position commerciales. Est-ce que ça fait partie de la réflexion que vous menez autour de cela en tant que professeur à l'Université de Lausanne?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une dimension depuis 30 dernières années, c'est que maintenant les sportifs ont des sponsors, ce qui était rare à l'époque, très très rare. Maintenant, un sportif individuel a plusieurs sponsors et bien sûr son intérêt c'est de faire parler de son sponsor et de ses sponsors. Donc il y a une sorte de course à l'échalote en quelque sorte parmi les sportifs pour être le plus visible possible. Et une façon d'être visible, il semble, être d'exprimer une opinion politique aujourd'hui. Mais je pense que... À partir du moment où un sportif a fait déjà quelque chose, un geste comme celui que vous évoquiez sur le podium à Mexico, le point levé des Noirs américains, tout ce qui est fait après, ce n'est plus la même chose, c'est déjà moins intéressant pour les médias. Les médias jouent un rôle important, je pense, dans cette course à l'échalote, comme je disais, des athlètes vis-à-vis de déclarations plus ou moins tonitruantes.
Il y a un mouvement qui s'appelle Global Athlete, je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs je prononce très mal en anglais, lancé en 2019, qui affirme, Aya Sissoko, les athlètes ont dû choisir depuis bien trop longtemps maintenant entre concourir en silence et défendre ce qui est juste. Il est temps que cela change. Mm. Times are changing, c'est un nouveau slogan, pourrait-on dire. Vous êtes d'accord avec ça?
Enfin, moi, de toute façon, je suis assez choquée justement par les adjectifs qui sont utilisés. Enfin, course à l'échalote. Non, en fait, c'est que si les athlètes sont encore obligés, de revendiquer maintenant, c'est que les choses n'ont pas changé. C'est qu'on en est encore à avoir continuellement les mêmes discours, à dénoncer les mêmes choses et que finalement, d'une certaine manière, on en a marre. Mmh. Mais c'est la société qui nous oblige à prendre position quand on le peut.
Ouais, visiblement, le genou à terre serait interdit aux prochains Jeux Olympiques, par exemple. Vous pensez que ça peut concourir à une plus grande encore imagination des sportifs pour pouvoir montrer ce que l'on a à dire dans une enceinte qui est la plus vue du monde entier.
Mais là, de toute façon, c'est une question de vie ou de mort pour justement. C'est-à-dire que quand tous ces sportifs, à un moment donné, symboliquement expriment justement les oppressions qui sont les leurs, mais est-ce que c'est une question de vie ou de mort? En fait, on n'est pas, c'est pas une course à l'échalote. Mmh. C'est une question de vie ou de mort. Et ça, il est important de le répéter, de le marteler, jusqu'à ce que ça rentre dans la tête, des membres du CIO.
Nicolas Martin-Breteau.
Oui, je pense que Aya Sissoko a tout à fait raison. C'est une question de vie et de mort. Et d'ailleurs, je reviendrai sur, vous avez mentionné Sterling Brown au début de l'émission, qui est l'arrière
des Bucks de Milwaukee.
De Milwaukee, exactement. Une ville qui est relativement proche de Minneapolis. Qui a révélé récemment la façon dont il avait subi une arrestation policière qui a failli très mal tourner. Un taser a été utilisé contre lui sur un parking, comme ça arrive à des dizaines de milliers de personnes noires aux États-Unis chaque année, qui auraient pu lui coûter la vie. Quand Aya Sissoko dit c'est une question de vie et de mort, il est très intéressant de voir que Sterling Brown, c'est l'un des deux joueurs des Milwaukee Bucks qui prend la parole pour dire qu'ils ne joueront pas le match 5 des playoffs contre les Orlando Magic et qui lance ce mouvement de grève générale en NBA.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'extérieur et l'intérieur du stade, en l'occurrence?
Absolument pas.
Jean-Louis Chapelet, sur cette question de l'interdiction du genou à terre, par exemple, lors des prochains JO, théoriquement au Japon, s'ils se tiennent, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont se tenir?
Non, moi je suis contre l'interdiction. Je répète, les athlètes ont le droit à s'exprimer. C'est la liberté d'expression. La question, c'est où et quand? Parce que ce genou à terre, s'il est fait à Tokyo par certains athlètes, le premier qui le fera, peut-être on en parlera, peut-être les médias en parleront, mais le deuxième n'en parleront pas, et le troisième encore moins. Parce qu'on parle beaucoup du podium de Mexico, mais vous savez qu'à Mexico, il s'est passé énormément de choses de similaires à ce qu'ont fait John Carlos et Tommy Smith. Mais on n'en a pas parlé. Le lendemain, il y a eu exactement la même chose, mais ce n'est pas cette photo qui est montrée, c'est celle de John Carlos et Tommy Smith. Donc il y a...
Vous voulez dire qu'il faut absolument faire rentrer la question des médias dans cette question politique et sportive, c'est-à-dire que les médias jouent leur rôle et que c'est très important que d'y penser tout le temps.
Si les médias ne montrent pas le geste, eh bien on n'en parle pas. Et du coup, ça n'intéresse pas les sponsors.
Est-ce que vous pensez que les sponsors sont toujours intéressés par ces questions-là et qu'ils jouent un rôle essentiel justement pour pouvoir permettre à ces opinions de s'exprimer?
Oui, ils font partie du système, bien entendu. Je vais vous donner un autre exemple.
Très brièvement, on arrive au bout de l'émission.
Excusez-moi. À Rio, en 2016, il y a eu Fiseya Lilesa, qui est un athlète éthiopien qui a gagné le marathon. Et en gagnant le marathon, il a croisé ses bras au-dessus de sa tête. Et c'était pour protester contre les prisonniers de guerre ou les prisonniers tout court politiques en Éthiopie. Et personne n'en a parlé, malheureusement.
Merci beaucoup Jean-Louis Chapelet. Je rappelle que vous êtes ancien cadre du CIO et professeur émérite à l'Université de Lausanne. Avec nous également Nicolas Martin-Breteau, maître de conférence à Lille 3 et auteur de Corps politique, un excellent livre qu'il faut lire si on s'intéresse à la question du sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle. C'est aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et merci beaucoup Aya Sissoko. Un dernier
mot. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est que si justement les sportifs, entre guillemets, endossent ce rôle, c'est que c'est aussi l'échec du politique.
de le faire.
Bah, c'est que le politique a échoué.
Merci beaucoup. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier et Imane Gilles à la technique. Avec nous aujourd'hui Jean-Frédéric et Alexandre Manzanares à la réalisation. Dans le temps du débat demain, comment se construit la mémoire des attentats?